Et notre invité ce matin, Cyril Hugues, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésident des jeunes agriculteurs dans les Hautes-Alpes, des élevages qui sont durement touchés actuellement par la fièvre catarrhale ovine. Est-ce qu'on parvient à recenser le nombre d'animaux ou d'élevages qui sont touchés dans le département?
Oui, donc aujourd'hui on a un peu plus de 150 élevages qui ont été touchés par la fièvre catarrhale ovine, à plus ou moins le nombre de victimes, quoi, mais il y a 150 foyers recensés quoi, pour le moment.
On n'arrive pas à savoir par contre le nombre de bêtes qui ont péri des suites de la fièvre catarrhale?
Non, parce que c'est des chiffres qui sont assez aléatoires, ça va de 5 brebis ou après à 10 ou 20 ou 30% du troupeau, ça dépend un peu les secteurs et les élevages différents quoi.
Et est-ce que cette fièvre catarrhale ovine, dont le responsable eh bien, c'est un moucheron, continue toujours de se propager dans le département, puisqu'avec l'automne, on sait aussi que les températures baissent?
Eh bien, le moucheron, va commencer à piquer un peu moins en dessous les 12 degrés. Donc, on a espoir que cela diminue un peu. Mais malgré le GDS, le groupement de défense sanitaire du 05, le pic de contamination devrait quand même arriver là aux alentours du 15 octobre, avec un bon nombre de brebis qui va descendre d'alpage, qui sont pas encore descendues. Donc, c'est... Pour eux, c'est le pic qui va être plutôt à ce niveau-là quand même, quoi.
Donc un pic attendu le 15 octobre. Ce GDS, c'est quoi sa vocation? Il est formé par qui?
Alors le GDS, il est là, donc groupement de défense sanitaire. Il est là pour travailler sur tous les problèmes sanitaires qu'on peut rencontrer dans le département ou même quand on organise des foires, c'est eux qui décident si les animaux sont aptes à se présenter sur les foires, tout ça. C'est eux qui gèrent un peu tout l'aspect sanitaire des élevages, quoi.
Ils arrivent à intervenir aujourd'hui. On a vu que certains territoires pouvaient être touchés par un manque de vaccins.
Eh ben ouais, nous on va être touchés par ce même problème. Donc pour ce que c'est la fièvre catarrhale ovine, le sérotype 8, on est en rupture de vaccin quoi. Donc et après il y a aussi à faire attention à la FCO avec le sérotype 3 qui arrive pas loin de chez nous aussi.
Il arrive aussi parce qu'il était dans le nord jusque là. On n'entendait pas parler dans les Alpes.
Et bien là, le cas le plus proche, c'est il y en a un en Saône-et-Loire et un en Suisse. Donc ça fait que le périmètre s'agrandit à toute l'Isère et toutes les Savoies. Nous, on est en limite, le département des Hautes-Alpes est en limite de la FCO3.
Jean-Michel Arnaud, le sénateur des Hautes-Alpes, veut interpeller la nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, pour appeler à soutenir les éleveurs face à cette fièvre catarrhale ovine. Est-ce que vous vous sentez démuni, Cyril Hugues, face à cette épisodie? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes pris en considération?
Disons qu'on est pris en considération dans le sens où on voit qu'il y a quand même du mouvement qui se crée autour de ça. Donc on a l'impression d'être soutenu. Après, il y a sûrement peut-être un manque d'anticipation des services vétérinaires et un manque d'anticipation des éleveurs qui ne sont pas forcément inquiétés assez rapidement. On arrive, entre guillemets, maintenant, c'est un peu tard pour réagir, quoi. Mais après, au niveau politique, les demandes ont été faites. On verra si les élus sont prêts à faire le nécessaire pour sauver la filière ovine, quoi, qui était déjà pas mal en chute libre, on va dire. Donc là, c'est un épisode de trop, quoi. Donc on espère qu'ils mettront les moyens pour sauver la filière, quoi.
Mais vous vous tournez vers qui? Vers le département? Vers l'État?
Directement vers l'État, quoi, avec en plus la nouvelle nomination du nouveau gouvernement. On a espoir qu'on puisse travailler rapidement sur tous ces sujets, sur les autres sujets, mais celui-là en particulier rapidement pour pouvoir avancer, donner des réponses aux éleveurs qui sont quand même assez inquiets, quoi.
Alors c'est vrai qu'avec ce nouveau ministère, ça y est, on y voit un petit peu plus clair, hein. On se souvient qu'en début d'année, la profession agricole s'était mobilisée partout en France pour demander plus de perspectives d'être entendues. Ça, c'était avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que, selon vous, c'est à nouveau à l'ordre du jour d'entendre cette profession agricole et d'y voir un peu plus clair?
Disons que oui, d'après les premiers mots de la ministre de l'Agriculture, c'est toujours le cas. Après, voilà, la LOA, loi d'orientation agricole, était quasiment votée au Parlement. Il ne restait plus que le Sénat et du coup, ça a été coupé au dernier moment, quoi. Donc, c'est vrai que ça en a été déçu parce que c'était une loi qui était quand même... qui nous paraissait vraiment utile et vraiment bien axé sur l'agriculture, quoi. Après, du coup, on espère que le nouveau gouvernement va continuer sur cette lancée-là. Du coup, après, pendant le temps du manque de gouvernement, du coup, les syndicats JA et FNSEA ont, en proposer de coup eux-mêmes les lois pour ça serait maintenant on aimerait bien que ce soit les députés maintenant qui amendent sur les lois qu'on a proposées, qui ça soit à l'inverse de d'habitude, que d'habitude c'est eux qui proposent et c'est nous qu'on dit ça va ou ça va pas. Et là, vu qu'il n'y avait pas de gouvernement, c'est les syndicats qu'on proposait des lois et on aimerait bien que les députés, eux, travaillent sur ce qu'on a proposé, quoi. Il y a 160 propositions de loi qui ont été déposées par les jeunes agriculteurs, donc on aimerait bien que les députés le prennent en compte, quoi. Voilà.
Autre sujet dans le milieu agricole, ce sont les récoltes de pommes et de poires qui ont débuté. On se souvient que le mois d'avril a donné lieu à des gels tardifs. Est-ce que les dégâts aujourd'hui sont recensés? Est-ce qu'ils ont donné lieu à des indemnisations?
Alors, bon, l'arboriculture, c'est un peu moins mon domaine, mais les récoltes ont bien commencé. La perte est sûrement un peu moins importante que ce qui avait été prévu. Peut-être le fait que après la météo s'est améliorée plus rapidement. Après la période, la récolte a l'air assez bonne. Donc après, on verra un peu les résultats par rapport aux années précédentes et tout sur les différentes variétés, quoi. Voilà.
Et parlons du loup. Parlons du pastoralisme. Vous le disiez juste avant, les élevages vont descendre des montagnes. Il y a un bilan qui a été publié il y a quelques jours, hein, le 20 septembre, par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes qui surveille notamment la population du loup et les attaques du canidé. Bilan, au 20 septembre 2024, 11 loups ont été détruits illégalement dans les Hautes-Alpes, 29 dans les Alpes d'Haute-Provence, 45 dans les Alpes-Maritimes. Et puis, ce rapport aussi sorti au mois d'août, toujours par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, on recense beaucoup plus de victimes bovines.
Eh bien oui, en fait, comme on le sait, le loup, il croque des moutons. Avec les moyens d'aujourd'hui, on essaye de protéger au mieux les troupeaux avec des chaînes de protection qui sont assez compliquées à gérer, mais malgré tout, les éleveurs font en sorte que ça se passe le mieux. Mais du coup, ça fait que maintenant, le loup va se retourner un peu aussi sur les élevages bovins qui, eux, sont très compliqués à protéger.
Et ne sont pas soumis, justement, aux règles de protection.
Et non, c'est très compliqué de protéger un troupeau bovin parce que, avec les parcs, c'est pas du tout le même système que les brebis. Du coup, on peut pas avoir de chaîne de protection qui serait trop souvent en divagation s'ils étaient dans des parcs comme ça. Donc c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de bovins touchés maintenant sur le département, quoi.
Et les attaques cet été, elles ont été en stabilisation, en augmentation, en baisse?
Le nombre d'attaques est, je crois, en augmentation. Les troupeaux sont bien protégés, mais malgré ça, on a des attaques maintenant en pleine journée, quoi, ou en fin de journée. Donc quand les brebis sont à la pâture, quoi. Donc la nuit, les brebis sont regroupées en parc de nuit, tout ça. Chaîne de protection, aide berger, tout ça, mais même pendant la pâture en pleine journée ou fin de journée, quoi, les bêtes peuvent être touchées, quoi, donc ça devient un problème, quoi.
Vous avez espoir que ça évolue? On se souvient qu'il y a quelques mois en arrière, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ouvrait une porte quant à déclasser le loup des espèces protégées.
D'espoir, on en a toujours parce qu'il faut. Après, honnêtement, on est très très sceptique à ce niveau-là parce qu'on sait que ça fait. Enfin, on en parle de plus en plus au niveau national, mais les Hautes-Alpes, ça fait plus de 20 ans qu'on a le problème. Et on avance d'un pas, on recule de deux. Donc, au final, si, on a toujours de l'espoir parce qu'il en faut, mais bon, ça reste quand même assez faible, quoi, on va dire.
Merci beaucoup, Cyril Hugues, d'avoir été l'invité du 8:30 ce matin. Je rappelle que vous êtes le coprésident des jeunes agriculteurs dans les Hautes-Alpes. Merci à vous.